Maintenant, au cas où vous ne seriez pas au courant, nous avons eu un mois gigantesque, et c'est même un terme trop faible. Ça a dépassé toutes nos attentes vers la fin du mois, surtout. Vous êtes tous au courant que nous avions eu, le mois passé, 580 000 téléchargements, qui était le taux le plus élevé que nous ayons jamais eu depuis le début. Or, ce mois dernier, nous avons cru 98,25% au niveau de 1 150 000 téléchargements, juste un peu au-dessus de ce que c'était pour l'ensemble de l'année 2004. Et cela juste pour le mois de juillet. Avec seulement 15 000 nouveaux téléchargements, nous aurions atteint le même niveau. Nous avons eu plus que 750 000 de personnes qui sont venues au site Internet ce mois-ci. Alors, ceci s'annualise à 8 835 000 si, à partir de ce moment-ci, nous maintenions le même taux sans jamais croître. Et je crois que personne ne peut croire une telle chose, que nous venons juste de croître 98% dans un seul mois. Si nous regardons les différentes semaines de ce mois-ci, il y en a eu qui étaient au-dessus de la moyenne, et ces semaines-là peuvent se traduire par un montant annualisé de personnes situé entre 13,5 millions et 17 millions de personnes. Si ces chiffres-là se maintenaient sans avoir aucune autre croissance, j'ai pensé que vous aimeriez entendre ces statistiques enthousiasmantes. En voici d'autres. Le magazine The Real Truth a eu une croissance de 384% en un seul mois. L'Ambassador Youth a été en hausse de 33% et le site de drcg.org a eu une croissance de 24%. Et la grande majorité, ou une grosse partie de ce que c'est qui est pris sur le site Internet, vient des autres groupes, des différents splinters, qui voient le compteur qui se trouve sur notre site et s'aperçoivent que ce n'est pas quelque chose qui se passe dans les autres groupes, où que ce soit. Ils se souviennent qu'il y a déjà longtemps que nous avons commencé à parler de cette explosion et de cette croissance. Ils sont capables de constater que c'est Dieu qui est derrière tout ça. Alors, à titre d'exemple, vous avez 39 000 articles qui ont été pris ce mois-ci. Il y a eu 12 000 brochures du SCP, le Splinter Explanation Packet, qui a été pris. Il y a eu 325 000 livres qui ont été pris sur le site ce mois-ci. Et on parle de tous ces livres qui sont ici sur les tablettes. Vous avez eu 31 000 sermons qui ont été téléchargés. Et oui, nous en avons plusieurs centaines sur le site. Ensuite, vous avez des rapports prophétiques, de tendances prophétiques, 9 200. Le cours d'introduction à la Bible a été téléchargé 12 000 fois. Le cours de Bible pour enfants a été téléchargé 48 000 fois. Les divers, ce qui comprend des cahiers d'activités et de coloriage pour enfants, 6 000 fois. Questions-réponses ont été téléchargées 64 000 fois. Et je laisse de côté tous les autres téléchargements qui ont pu se faire également dans les différentes langues. Et nous avons même eu 6 000 personnes qui sont venues regarder le diaporama du quartier général. Alors, ça aussi, c'est un petit peu étonnant. J'ai pensé aussi que vous seriez intéressé à entendre quelques notes à propos des différents pays. Alors, commençons par, je crois qu'il y en a quelque chose comme 300 000 personnes qui ont lu notre rapport sur le Moyen-Orient. Il y a eu 25 000 personnes qui ont écouté mon émission spéciale « Un monde au bord du précipice ». Si on regarde notre brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie », au mois de juin, 2400 personnes l'ont lu, et au mois de juillet, 46 000. Ensuite, notre autre brochure « Comment viendra la paix mondiale », au mois de juin, nous en avons eu 1100, et au mois de juillet, 27 000. Alors, nous avions fait de la publicité à ce sujet. Et une chose qui est étonnante, frères et sœurs, c'est que, ironiquement, pendant le mois de juillet, la plupart des catégories qui sont généralement élevées étaient toutes basses. Si ça n'avait pas été le cas, nous aurions dépassé de beaucoup la croissance de 100%. Ensuite, la brochure ou l'article War, Killing and the Military, qui avait eu 1400 téléchargements en juin, a atteint le 10400 cette fois-ci. Ensuite, la Grande-Bretagne des États-Unis, selon la prophétie en anglais, en juin était à 3300 et a atteint et dépassé le 7000, une augmentation d'au-dessus de 113 %. Donc, tout ceci est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, permettez que maintenant, je fasse un bond à l'avant. Alors, tout ceci est un genre d'introduction au sermon. C'est la raison pour laquelle je parle de statistiques. Ça sert d'introduction au sermon et vous allez voir pourquoi dans un instant. Lorsque je reviendrai sur le sujet. Les pays, maintenant. Donc, nous allons maintenant voir le nombre de visiteurs qui sont venus de chacun des pays. Rappelez-vous que nous avons eu au-delà de 750 000 de personnes qui sont venues sur le site Internet. Alors, on ne parle pas des personnes à qui ces personnes-là ont parlé, entre autres, ni de leur famille. Monsieur Armstrong avait l'habitude de dire que le ratio était environ 2,5 à 3 personnes pour une. 431 000 personnes des États-Unis seulement sont venues sur le site Internet. L'Australie, 45 000 visites. La Hollande, 31 100. Le Royaume-Uni, 31 000. L'Arabie saoudite, 18 200. Juste, même un peu au-dessus du Canada, qui est presque à 18 000 exactement. Les Émirats arabes unis, 15 900. L'Afrique du Sud, 14 900. Les Indes, 12 900. L'Uruguay, qui est à 10 500. Alors, si je continue à sauter de ci de là, alors regardez un petit peu partout. L'Iran en a 6 600. Singapour, qui était cette petite ville-État, 9 500. La Turquie, 2 200. Le Brésil, 2 400. L'Indonésie, 1 600. Le Pakistan, 2 200. L'Égypte et le Koweït, les deux, 3 300. Le Liban, 3 800. L'Israël, 4 440 visites. Et nous recevons des courriels des Juifs. Nous avons eu plusieurs messages. Lorsque quelqu'un vous écrit et que son prénom est Moshe, ou encore que son nom est Cohen ou Levi, je dis ça parce que nous en avons reçu plusieurs comme ça. Le Japon, 1900. La Suède, 1600. Etc., comme ça un peu partout. La Syrie, qu'on peut peut-être appeler comme un des membres de l'axe du mal dans cette guerre, c'est donc très normal de voir qu'il y a eu seulement 666 personnes qui ont écrit de ce pays-là. Donc, je dois vous dire, en réalité, nous avons eu un mois absolument extraordinaire. Et si on veut être vraiment équitable, pour le comparer au mois de juin, nous devons dire que juillet avait un jour de plus. Donc, si nous enlevions les résultats de ce jour-là seulement, je l'ai calculé, rendu au dernier jour, nous aurions eu une augmentation de 91 %. Normalement, nous croissons entre 7 et 11 % par mois, mais comme vous savez, c'est quelque chose qui est composé aussi, mais le mois de juillet a été vraiment un bond gigantesque. Alors, il est possible que nous ayons un petit recul, frères et sœurs. Frères et sœurs, parce que nous sommes une œuvre courte. Je ne dis pas là qu'il n'y aura pas de, on pourrait dire, d'étals ou même des bas un peu dans le nombre de personnes. Et je ne dis pas non plus que nous n'aurons pas de vallées ou de creux plus profonds. Mais il est presque obligatoire que ce genre de choses devrait être temporaire et peu nombreuses. Très court et très peu nombreux. Et c'est aussi pourquoi, parfois, nous devons traverser des événements traumatiques comme ceux qui sont arrivés cette semaine. M. Armstrong a été obligé de traverser certaines choses, tout comme Paul a dû le faire et bien d'autres serviteurs de Dieu. Dieu se sert de ces choses-là pour empêcher les gens, en quelque sorte, de s'envoler vers la lune à cause du genre de travail qu'ils font. Et cela leur permet de leur rappeler qu'ils sont forts au moment où ils sont faibles. Paul a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce qu'à ce moment-là, on se tourne vers Dieu. Paul n'était pas un idiot. il n'allait pas le dire, bon, je me sens faible, donc ça veut dire que je suis fort. C'était pas ça, là. Ça voulait dire qu'il réalisait qu'il était faible. Et à ce moment-là, il se tournait vers Dieu pour aller chercher sa force. Voilà pourquoi le jeûne nous permet de nous tourner vers Dieu. On est capable de réaliser qu'on est dans le fond un tas de chair et qu'on a besoin de nourriture, on a besoin d'eau. On se rend compte que notre pression sanguine est basse et puis si on n'augmente pas notre sucre dans notre sang, on va plus ou moins tomber. Donc, si on ne veut pas s'effondrer ou s'évanouir à toutes les fois qu'on se tient, on a besoin d'avoir de la nourriture de façon régulière. C'est souvent ce qu'on se dit à la fin d'un jeûne. Je mourrais si je ne mangeais pas rapidement après avoir terminé mon jeûne. C'est d'ailleurs ce que fait un jeûne. Ça nous rend faibles physiquement afin que nous soyons forts spirituellement, de manière à ce que nous devenions plus forts à cause de ce à travers quoi nous venons de passer. Puis, quand nous avons des résultats comme ceux que nous venons d'avoir, c'est facile pour nous autres de prendre ça pour acquis et dire, bon, nous allons passer maintenant de Mac 1 à Mac 2 à Mac 3. Et après ça, on commence à briser des vitres partout à travers le monde à cause de notre rapidité. Et on continue à aller toujours de plus en plus, de plus en plus vite, puis dire, wow, c'est nous autres. Oui, c'est vrai, humainement parlant. Mais on doit quand même réaliser que Dieu va nous mettre un frein à un moment donné, nous retenir, nous contrôler à sa façon remplie d'amour. Et parfois, il faut qu'il y ait une personne en particulier qui soit choisie pour qu'une telle chose se produise. Donc, j'espère que vous comprendrez ça de cette façon-ci. Bon, alors je répète, les statistiques, dans un certain sens, préparent le sermon et vous allez voir pourquoi dans un instant. Alors, j'ai une question à vous poser, parce que le sermon est en réalité commencé avec les statistiques. Avez-vous déjà jamais pensé à Dieu en termes d'employeur, des gens qui travaillent pour lui? On parle souvent et on emploie le terme « l'œuvre de Dieu ». Et nous avons des gens ici qui œuvrent pour Dieu dans le bureau. Et ils réalisent qu'ils tirent leur chèque de paye des dîmes et de tout ce qu'il existe dans l'entrepôt, entre guillemets, de Dieu. Alors, c'est parfait pour ça, oui, on le comprend, mais je veux dire, en posant cette question-là, quelque chose de plus général, en pensant à vous. En fait, on pourrait même poser la question, est-ce que vous avez déjà pensé à Dieu qui doit aussi s'occuper de chômage, et un chômage à un niveau vraiment renversant? Alors, vous pouvez peut-être vous dire, M. Pack, de quoi est-ce que vous parlez, là? Mais je suis encore prêt à vous le dire. Dieu est un patron très sélectif. Il choisit du personnel très spécifique et qualifié pour qu'ils soient ses employés. Ceux qui sont ici, dans le bureau, comprennent comme il faut ce que nous disons ici. Ils ne peuvent se contenter d'être tout simplement dans l'armée. Ils doivent être avec les unités spéciales, les SEAL. La vie de d'autres personnes en dépend. J'appelle les gens du quartier général mais gens des opérations spéciales. C'est eux qui constituent ce qu'on appelle le Delta Force, ou les Top Guns, ou les Bérets Verts. Et ils sont obligés d'être comme ça. Qu'ils se sentent ainsi ou non, ils sont utilisés dans cette capacité-là, de cette façon-là. Et ils sont obligés de rencontrer certaines normes. Mais je ne veux pas parler vraiment à propos d'eux autres. C'est surtout de vous que je veux parler. Ce qui revient dans un certain sens au même. Alors, continuons. Est-ce que vous avez déjà réfléchi ou vu que Dieu, en réalité, affiche des pancartes qui disent « Nous embauchons ». Il y a un grand nombre de personnes qui remplissent des feuilles de candidature. Ils cherchent un emploi, ils posent leur candidature pour un emploi. Mais, en fin de compte, il n'y a qu'un très petit nombre de demandes qui soient acceptées. Alors, tout cela est réel en ce qui regarde Dieu. Et peut-être que là, encore une fois, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Alors, essayons de comprendre. Commençons d'abord en tournant à Matthieu, chapitre 20. Alors, Matthieu, chapitre 20. Alors, ce n'est pas un sermon au sujet de l'œuvre, mais il y a quand même des aspects intéressants qui traitent de l'œuvre. Autrement dit, on n'a pas utilisé les statistiques comme introduction parce que c'est vraiment un message à propos de l'œuvre comme telle. Donc, maintenant, à Matthieu, chapitre 20 et verset 16, et on y lit, « Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Et dans la version anglaise, il y a un bout qui est ajouté qu'on ne retrouve pas en français, qui dit « For many be called, but few chosen. » Et on retrouve ce passage-là dans Matthieu 22, 14, qui est exactement la même chose qu'en anglais, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Il est important, de temps à autre, de réaliser qu'il y a beaucoup de personnes que Dieu appelle. Il les appelle. Il n'y aurait pas de raison que Dieu appelle les gens s'ils n'avaient pas la possibilité d'être aussi choisis. Autrement dit, Dieu leur dirait, « Je t'appelle, mais je te dis tout de suite, tu es prédestiné à ne pas être accepté. » Autrement dit, « Je t'appelle à connaître ma vérité. Alors, je t'appelle, viens-t'en ici. » Vous savez c'est quoi un appel? En fait, vous pouvez prendre le téléphone puis appeler quelqu'un. Vous avez les ministres aussi à travers le monde et dans les différentes églises qui parlent souvent de l'appel, hein, de recevoir l'appel, d'être appelé. Alors, ces ministres-là ne savent pas ce qu'est l'appel de Dieu. Les gens disent qu'ils se sont sentis appelés à servir le Dieu. J'ai traité ça d'ailleurs dans l'article que j'ai écrit, « Est-ce que vous êtes appelés? » Les gens n'ont pas d'idée vraiment ce qu'est l'appel. Il y en a qui reçoivent un appel à aller défendre leur patrie, par exemple. Il y a eu, par exemple, un Américain qui est mort cette semaine. C'est de nation juive américaine. Il est mort au Liban. Il avait reçu l'appel pour aller servir dans les forces israéliennes dans la guerre contre le Liban. Il s'est rendu là-bas, puis il a été tué. Il avait ressenti un appel. Les gens ne savent pas ce qu'est qu'un appel. La Bible est très claire. Dieu appelle les gens. Vous savez que votre ami vous a appelé, vous savez ce que ça signifie. Ne donnez pas une signification différente à cet appel-là. Donnez-lui la même signification que Dieu lui donne. Dieu appelle les gens. Par exemple, il y a eu au-delà de 750 000 de personnes qui ont entendu un appel qui est sorti fortement avec puissance de l'œuvre de Dieu. Et cet appel est parti d'ici, du deuxième étage de cet édifice. Alors, il s'agit d'un grand appel. D'accord avec vous, ce n'est rien comparé à ce que c'est que ça va être un jour. Mais ça demeure quand même le plus grand des appels à ce jour. C'est quand même beaucoup. Si vous rassemblez ensemble 750 000 personnes, et ça c'est sans compter la famille, les amis, ceux à qui vous avez parlé à l'entour, qui disent « tu devrais voir cet article-là » ou « tu devrais aller sur ce site » ou « tu devrais lire ce livre-là ». Ou encore, tu devrais entendre cette émission que j'ai entendue, là, « Le monde au bord du précipice ». J'ai justement reçu une lettre aujourd'hui en provenance d'Afrique. Et la personne nous disait, « Je suis fortement encouragé par cette émission que j'ai entendue, « World on the Brink », « Un monde au bord du précipice ». Le monde est dans un tel état de confusion Et maintenant, je commence à comprendre ce que cela signifie. Je suis donc très content d'avoir écouté cette émission-là. Des dizaines de milliers de personnes l'ont entendue. Ce qu'il va faire avec ça, je ne sais pas. J'ai presque lu sa lettre, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps. Donc, appeler signifie simplement être appelé. Mais peu sont choisis. Christ a déjà dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. J'ai déjà donné un sermon, il y a déjà un certain temps, et il était intitulé « God's Way, Small, Little, Few ». Depuis que j'ai donné ce sermon-là, j'ai eu d'autres versets qui me sont venus à l'esprit que j'aurais pu ajouter pour montrer, dans ce sermon, pour montrer que Dieu travaille toujours avec très peu de personnes. Et il n'a cessé de le répéter. Il est en train de rassembler des gens et mettre sur pied ce qu'on appelle un petit groupe pour des opérations spéciales. Il va y avoir une seule petite équipe qui va régner avec Christ. Cela va commencer pour d'abord 1000 ans. Il va s'agir de gens très spéciaux. Ce ne seront pas les GI réguliers de 90 jours que le gouvernement engage. Dieu peut travailler avec beaucoup de monde, mais 9 d'entre eux sur 10 qui veulent se rendre jusqu'au SEALS, qui est l'équipe spéciale, échouent. Ils ne sont pas capables de réussir. Alors, ils retournent en arrière dans l'armée régulière ou dans la Navy. Il y a quand même beaucoup de personnes qui répondent à l'appel de Dieu. Et il y en a même qui viennent travailler pour lui. Je ne parle pas à son œuvre, là, mais en réalité, il n'y en a que très peu qui sont embauchés. Alors, suivez bien, non? Est-ce que vous savez quel est le taux de chômage divin? Eh? D'abord, il faut dire que Dieu a fait chaque être humain en vue un jour de devenir membre de la famille divine. Il se reproduit lui-même à travers tous les êtres humains qui aient jamais vécu à partir d'Adam et Ève. Bon, maintenant, jetons un coup d'œil sur le monde présentement. Il y a ce qu'on pourrait appeler une main-d'œuvre de 6,5 milliards d'individus sur la Terre. Donc, il est possible que Dieu, à un moment donné, décide d'engager jusqu'à 3000 personnes. Bon, la raison pour laquelle j'utilise 3000, c'est tout simplement parce que c'est 10 fois l'armée de Gédéon, pas plus que ça, là. Ça peut être aussi 7 fois le même montant. Et puis, il va y avoir des Laodicéens à l'intérieur de tout ça. Mais je ne fais que regarder aux gens qui sont sur la Terre aujourd'hui. On sait que les Laodicéens vont se réveiller. La moitié, en tout cas, va le faire. La moitié, ils ne le feront pas. Et parmi tous ces gens-là, il y en a qui sont tout simplement de livrets. Ils ne font même pas partie d'un ou de l'autre. Et on en retrouve également dans les différents splinters. Donc, tous les autres sont en quelque sorte sans emploi, excepté, sauf les 3000. Alors, je choisis un chiffre comme ça, juste pour vous permettre de faire une comparaison ici. On pourrait utiliser un chiffre plus gros, là, mais on va utiliser celui-ci pour le moment. Donc, tous les autres, vous avez 3000 personnes ici, là, et tous les autres sont sans emploi. Et quand vous faites le calcul, ceci revient à dire qu'il y a 99,99995% qui ne sont pas à l'emploi de Dieu. Ça, c'est le chiffre si on prend 3000. On pourrait arriver peut-être à 99,9995 si jamais les 3000 montaient jusqu'à 30 000, par exemple. Alors, ceci consiste au nombre de personnes qui sont sauvées à cette époque après que la grande détresse va en avoir éveillé un bon paquet. C'est quelque chose de sérieux. À ce point-ci, cela consiste en tout un problème de chômage pour Dieu, et également à une extraordinaire responsabilité pour ceux qui ont un emploi. Alors, poursuivons maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est au juste que cette demande d'emploi qu'on appelle être appelé, l'appel. Et que veut dire ou que signifie être engagé, embauché lorsqu'on est choisi? Qui sont appelés et qui sont choisis? Quel est le travail au juste? Quel est le salaire qui est donné? Quelles sont les qualifications qui sont requises? Et pourquoi y a-t-il un tel taux de chômage sur la planète Terre lorsqu'on parle de Dieu? Bon, alors, rebroussons chemin un petit peu ici et demandons-nous, qu'est-ce que ça veut dire que d'être appelé? Techniquement, ça veut dire être convoqué. Dans ce cas ici, il s'agit d'une sommation. Et tout le monde sait pas mal ce que peut être une sommation. Vous recevez un coup de téléphone et ce n'est pas pour vous demander ou vous inviter à leur maison, à aller chez eux. J'ai appelé des gens cette semaine et je les ai invités à venir à la maison chez moi. Si vous recevez une sommation par la poste, ça veut dire que vous êtes convoqué à la cour. Dans le cas qui nous occupe, l'appel signifie une sommation. Attirer l'attention des gens dans le but de leur transmettre quelque chose. Et on parle de quelque chose d'important ici, mais ça pourrait aussi être leur dire quelque chose tout simplement. Donc, Dieu appelle, convoque les gens, et il l'a fait depuis le temps d'Abel, Abel le Juste, lui qui enseignait certaines choses, et cela est relié directement à sa mort, et c'est ce qui est arrivé à bien des serviteurs par la suite. Dieu convoque les gens afin de les informer du travail qu'il leur offre. Comment Dieu fait-il cela? Alors, tournons maintenant à 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et au verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que l'évangile est prêché, il s'agit de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous avons reçu une lettre hier de cet homme en Israël qui nous a dit, et on parle maintenant de termes anglais, vous dites que « God spell » est un ancien terme anglais. Puis il dit, vous comprenez sûrement que cela provient du grec, puisque le Nouveau Testament a été en grec. A été écrit en grec. Il dit ça pareil comme si on était trop bête pour le comprendre. Là. Alors, il pose la question, alors, comment est-il possible que cela provienne d'un vieux mot anglais? En réalité, c'est que ça a été traduit par un vieux mot anglais. C'est sans doute ça qu'on aurait dû dire, qui signifie en fait de bonnes nouvelles. Donc, nous publions sur notre site Internet de bonnes nouvelles. Et nous devons voir cela comme étant notre responsabilité première, bien qu'à cette époque-ci, nous devions avertir 600 millions d'habitants qui appartiennent et qui vivent dans 22 nations et territoires. Et cela n'a pas toujours été la responsabilité des serviteurs de Dieu. Les apôtres n'étaient pas obligés d'avertir au sujet des événements qui sont à la veille d'arriver. Alors, j'écoutais justement hier l'émission qui avait été diffusée sur le Discovery Channel sur l'Apocalypse. Alors, mon fils et moi avons réussi enfin à avoir le temps de le faire et on regardait et on disait, wow, ça c'est mauvais. On se dit à un moment donné, même par chance, ils vont réussir à avoir au moins quelque chose de vrai. Vous fermez les yeux, vous tirez du pistolet, puis il y a une balle qui va frapper au bon endroit. Ils ont eu un score de zéro. D'abord, ils ont donné toutes sortes d'explications. Ça a commencé au premier siècle, c'est dans le temps où ça s'est produit, c'est Néron qui était la bête, ça faisait pitié. Ensuite, il n'y a pas une seule fois Il y en a qui ont dit que l'Apocalypse venait de Christ. Ils ont tous dit que c'était la révélation de Saint Jean le Divin. Bien entendu, si vous pouvez à un moment donné à donner toutes sortes d'explications, de justifications dans ce cas-là, vous pouvez commencer aussi à dire que l'Apocalypse est une révélation qui vient d'un vieil homme qui était sur l'île de Patmos et qui faisait tout son possible pour écrire certaines choses. Puis, à un moment donné, ils ont quand même admis une chose, c'est une minute, il a écrit ces choses-là après que Néron fut décédé. Et ça représentait un problème. Par contre, d'autres personnes ont dit non, c'est pas ça, c'est que ça s'applique au futur, à l'avenir. Et puis, il n'y aura pas de danger parce qu'il y a l'enlèvement. De toute façon, j'ai été seulement jusqu'à la moitié. Puis, peut-être que ce soir, j'écouterai l'autre moitié si jamais j'ai besoin de quelque chose pour m'endormir. De toute façon. Et puis, il y a même une autre partie, la partie 2. Je ne me suis même pas rendu là. C'est vraiment triste. Les gens ne comprennent réellement pas ce qui s'en vient. Et nous devons les avertir. Je comprends cela. Nous devons avertir les gens, leur expliquer un livre qu'ils ne comprennent pas et qui est aussi scellé que les livres de Daniel l'étaient pour lui-même dans le passé. Alors oui, je reconnais que c'est une chose que nous devons faire. Mais le rôle principal de tous les serviteurs de Dieu a toujours été d'annoncer la venue d'un super gouvernement mondial. Il s'agit d'un super gouvernement dirigé par Christ avec ses saints. C'est ce qu'on appelle l'Évangile. Il vous a appelé par notre Évangile, verset 14. Alors, il ne s'agit pas ici d'un Évangile que Paul avait, ou les autres apôtres, ou Christ avait, et Dieu en avait un autre. Il y en a toujours un seul Évangile. Donc, la prédication de l'Évangile permet à Dieu d'appeler. Or, l'Évangile n'est pas le travail en soi, ça se trouve à être plus ou moins la description de tâche. On reconnaît, on sait qu'il y a ces demeures, ces endroits, ces postes dans l'Église de Dieu auxquels Dieu nous appelle. Un grand nombre sont appelés, mais la majorité disent « Non, je suis occupé. J'ai telle chose à faire ou telle autre chose à faire, j'ai telle chose qui est importante, on va en parler un petit peu plus. Mais avant, tournons à Philippiens 3. Philippiens 3. Il s'agit d'un appel extraordinaire et il est décrit de plusieurs façons. Là, nous allons regarder trois façons dont il est décrit. Alors, Philippiens 3 et au verset 14. Philippiens 3, 14. Il s'agit d'un travail qui exige d'excellentes qualifications, qui possède des normes élevées et qui sous-tend beaucoup de responsabilités. C'est aussi un travail qui paie un très bon salaire avec des avantages marginaux extraordinaires. Ce n'est tout simplement pas un job que Dieu va donner à quelqu'un comme ça en passant sur la rue. Alors, Philippiens 3, 14, et si on commence au verset 13, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. » C'est-à-dire avoir saisi tout ce qu'il y a à saisir. Mais je fais une chose. Il n'y a aucun être humain qui comprend toute chose, qui se souvient de toute chose, même Paul. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Et Paul avait beaucoup de choses à oublier. Il y avait des choses qu'il avait faites, qu'il voulait tout simplement faire disparaître, effacer complètement et ne plus jamais y penser. Il avait fait des choses qui étaient absolument horribles. Et la Bible a écrit quelque chose à propos de quelques-unes de ces choses. On pourrait donc dire qu'il serait en quelque sorte un professionnel sur la façon d'oublier le passé. Et me portant vers ce qui est en avant, je déteste retourner en arrière. J'aime même pas écouter parfois la musique d'une certaine époque. Parce que toutes les fois que j'écoute à un moment donné tel morceau, je vais m'en voir, par exemple, en train de conduire à tel endroit ou en train de faire telle autre chose. Donc, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Et le mot vocation ici, qui est clésis en espagnol, en, en grec, signifie aussi appel, peut être traduit par appel. Alors, quand vous recevez un appel, il ne s'agit pas toujours d'un appel céleste. Donc, il s'agit ici d'un appel par Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous venons de mieux définir maintenant ce qu'est cet appel-là. Vous n'êtes pas appelé à un travail de col bleu, par exemple, ni même à celui d'un cadre junior ou intermédiaire. Vous avez été appelé pour un poste exécutif de plus haut niveau. Il s'agit d'un appel qui vient de haut lieu. Et nous ne devons pas regarder en arrière. Tous les êtres humains ont fait des erreurs. Et donc, tous auraient des raisons de regarder vers le passé. Et Paul nous dit, je ne peux pas faire cela. Je dois regarder et aller vers l'avant. L'appel vient de trop haut. Et il y a un prix en jeu à quelque part là. Alors, Éphésiens 4 donne une description un peu différente de cela. Éphésiens 4. Alors, nous demeurons encore une fois avec la même analogie qui est tirée directement des Écritures, par contre. C'est-à-dire d'être engagé dans une fonction, un poste, un travail. Éphésiens 4, je ne sais pas si vous avez déjà lu ceci. Alors, verset 1, « Je vous », il parle à qui ici? Il parle aux frères et sœurs, aux Éphésiens qui sont là. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Vous savez ce qu'est une vocation? Et ici, le terme est le même en anglais, « vocation ». Ce qui est dit, c'est que dans le fond, votre appel est une vocation. En anglais, nous avons le terme « vocational school ». Ce sont des écoles où l'on va lorsqu'on a un chemin de carrière à suivre. Et le mot français dans le petit Robert pour vocation va nous donner « destination » et « être qualifié pour ». Autrement dit, une vocation est quelque chose qui est attaché au travail que nous allons faire, que nous avons choisi. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi en ces termes-là. Vous avez été appelé à la vocation chrétienne, à la vocation de ce qu'on appelle le christianisme. Et lorsque vous vous êtes engagé là, vous êtes, autrement dit, le prisonnier dans le Seigneur. Ensuite, on dit à marcher d'une manière digne, parce que il y a des yeux qui sont fixés sur vous là. Hier, à la cérémonie funéraire que nous avons eue, il y avait plusieurs façons de penser qui étaient présentes là. Et j'ai dit à M. Turk, je ne sais pas si vous y a déjà fait des cérémonies funéraires là, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous allez prêcher le royaume de Dieu à des gens qui n'en ont jamais entendu parler. C'est-à-dire que la majorité des personnes présentes ne seront pas les membres de l'Église de Dieu. Ce qui, en passant, nous fait dire que les services funéraires sont aussi une occasion extraordinaire. Dieu permet à quelques-uns de ses saints de mourir de façon à ce que des gens et le monde puissent entendre l'Évangile. M. Turk n'a pas parlé que Danny était au ciel, là. En fait, le futur de Dan est bien au-delà de cela. Normalement, généralement, vous avez des gens qui essayent de réconforter des gens avec une espèce de placebo, et ça ne fonctionnera pas, car ils essayent d'illustrer la mort comme étant une amie. C'est comme si c'était quelqu'un qu'on rencontrait à un moment donné sur l'autoroute de la vie. La mort est une ennemie mortelle. Et l'aiguillon de la mort est pénible. Si jamais vous n'avez jamais été piqué, j'ai été piqué par 6 frelons à la fois. Ma femme me dit qu'elle ne m'avait jamais vu danser comme ça. Elle essayait de me mettre une espèce d'onguent dans le dos, et elle a pu voir, comme on peut dire, le meilleur rythme que j'ai pu démontrer de ma vie. En fait, j'étais en train de tondre le gazon lorsque j'ai passé par-dessus. J'ai juste touché. Je suis parti à courir. Je suis descendu jusqu'au bout de la rue, jusqu'à la fin du bloc. Puis j'ai tourné, j'ai fait un U-turn. Ils ont tourné avec moi. Il y en a 6 qui ont réussi à me piquer dans le dos. Je sais qu'est-ce que c'est que d'être piqué. J'ai été piqué par des abeilles et puis même des guêpes jaunes. Et puis il y a eu ces dernières-là. Je ne peux pas dire que je les ai considérées comme étant des amis que l'on rencontrait sur l'autoroute de la vie, là. Non, en fait, je courais dans la rue. Et en passant, ce n'était pas une autoroute, c'est dans la rue que j'étais. Puis, de toute façon, pour croire que je ne courais pas suffisamment vite. Mais vous devez marcher d'une manière digne, telle que cela s'est passé d'ailleurs au funérailles. J'ai été fier de voir nos gens de l'Église et de la façon dont ils se sont comportés en honorant Dan. Tout en comprenant que Dan, un membre, et je l'appelle un membre parce que nous sommes tous des membres unis les uns aux autres, tous membres de cette congrégation-là, comprenant que Dan va être parti pendant un court laps de temps, un jour ou plus. Tout cela pour dire que nous avons été un bon exemple vis-à-vis des habitants de ce petit village de l'Ohio, un exemple que peut-être ces gens-là n'auront pas l'occasion de revoir d'ici la fin de cet âge. Ça a été toute une expérience. Il y avait beaucoup de monde à cet endroit-là. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de personnes. Et bien des gens ne comprennent pas, si on peut dire, la guérison dont nous parlons aujourd'hui. Les gens ne sont pas capables de comprendre les analogies dont on parle ici aujourd'hui. Ils ne peuvent même pas comprendre Dieu non plus. Or, nous comprenons. Et nous étions là, à ces funérailles, un genre d'illustration. Nous sommes les lumières du monde et le sel de la terre. Et ça a rendu les choses beaucoup plus faciles que ce jeune homme a été quelqu'un d'aussi spécial. Donc, ici, vous voyez, notre appel est appelé une vocation. Rendons-nous maintenant à 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6, quelques pages plus loin. Alors, voici un autre terme qui est utilisé ici. Et nous allons commencer au verset 12. Alors, combat le bon combat de la foi. Alors, voici quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous avez déjà pris en note ce verset-là? Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. En fait, l'anglais le traduit par « et pour laquelle tu as professé une belle profession ». Et qu'est-ce qu'une profession? C'est un travail, un job, comme on dit. Une profession pour laquelle vous avez été engagé. Il y en a qui deviennent des médecins, il y en a qui deviennent des avocats, d'autres deviennent des représentants, deviennent des enseignants, deviennent des comptables. C'est une position. On retrouve toutes sortes d'entrepreneurs, par exemple, vous pouvez avoir des musiciens, toutes sortes de professions. Donc, le but, c'est de dire que nous sommes appelés et nous devons, entre guillemets, professer, avoir une profession. On ne peut pas vivre en vase clos. Il n'est pas question pour nous de fermer toutes les stores et de rester enfermés chez nous. Nous devons professer une bonne profession, comme c'est dit en anglais. Et ce n'est pas nécessairement seulement une belle profession, car le mot « belle » ici est le mot « kalos » qui veut dire « bonne ». C'est une bonne profession. Il s'agit ici d'une profession divine qui nous est donnée par Dieu. Donc, en résumé, nous savons que nous sommes appelés par l'Évangile à une vocation céleste et c'est aussi une profession vers laquelle nous devons nous élever. C'est une profession que nous devons accepter. Nous devons accepter la réalité. Nous ne sommes pas comme les personnes que nous pourrions rencontrer sur la rue, ou encore comme certaines que nous avons rencontrées au service funéraire hier, ou n'importe où dans le monde. Nous devons acquiescer à cette profession-là qui nous est donnée. Oui, nous devons dire, nous avons cette profession-là. Nous devons le reconnaître. Nous ne nous retrouvons pas dans ce 99,99995% de l'humanité. Et pour que ce chiffre-là soit réel, il faut même que nous soyons encore beaucoup plus gros. Donc, on pourrait se demander, vous pouvez peut-être vous dire que vous connaissez la réponse, mais je gagerais que non. Alors, gager n'est pas vraiment chrétien, mais si j'étais quelqu'un qui gageait, je supposerais que vous ne savez pas. En fait, je sais que vous ne savez pas. Alors, vous allez écrire la chose suivante, la réponse suivante. Alors, écrivez la réponse à cette question. Quelle est cette vocation technique et professionnelle? Et qu'est-ce que cet emploi-là, là? Quelle est donc cette vocation hautement technique et professionnelle et demandant tant d'habileté à laquelle Dieu nous convie? Alors, on parlait de description de tâches, de candidature, d'embauche. Alors, est-ce que vous l'avez écrit? Alors, tournons maintenant à 1 Corinthiens 1. Est-ce bien ce que vous avez écrit? Alors, 1 Corinthiens 1, au verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Et le mot « saint » ici est un nom et non pas un adjectif. À être des saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Appelés à être saints. Or, dans le monde, ce qu'on entend la plupart du temps comme expression, « je ne suis pas un saint ». En ce qui vous concerne, vous avez besoin de ne pas dire une chose de même parce que c'est exactement ce à quoi vous êtes appelé. La description de tâche que je viens juste de vous fournir, c'est celle d'un saint. Un saint n'est pas quelqu'un que le pape décide de dire ou de nommer saint. Quelqu'un qui a vécu il y a 400 ou 500 ans et que Dieu n'avait pas eu n'avait pas osé nommer saint et que quelques centaines d'années après, le pape, lui, le nomme. Benoît XVI a pris son nom du nom d'un saint Benoît qui aurait vécu plusieurs siècles auparavant. Donc, les gens parlent de saint, comme saint Christophe, qui est supposé être celui qui protège les voyageurs. C'est de la médaille. Donc, on voit se balancer sur le miroir dans les autos. Je ne suis pas certain si c'est vraiment le protecteur des voyageurs. Je n'étais pas catholique. Je n'étais même pas un bon presbytérien. Alors, je ne peux pas connaître tous les saints qui existent. Alors, on sait qu'il y a le saint Bernard. Alors, c'est sans doute le saint de sauvetage, mais il ressemble beaucoup à un chien. Ensuite, on parle de saint Jean le divin. Alors, c'est assez incroyable de voir qu'est-ce que les gens pensent. Ils n'ont qu'une idée de ce que c'est qu'un saint. Pour certains, les saints, c'est... Par exemple, ça pouvait être des prêtres. Je crois que saint Benoît, le premier, était un prêtre. Puis je crois qu'il y a un autre prêtre là, qui a vécu pendant la Deuxième Guerre du Mondial, qui avait sauvé beaucoup de monde, qui vient d'être, en quelque sorte, installé. C'est un peu comme si Dieu, en haut, au ciel, sur son trône, attendait que ce gars-là qui est à Rome décide qui va être saint ou non. C'est totalement ridicule. C'est un outrage, dans le fond, pour que... Il y a 1 milliard et plus d'êtres humains qui suivent. Et ces gens-là pensent que ça fait partie de la fonction de cet homme-là de nommer des saints pour lesquels il a fallu attendre des siècles pour quelqu'un qui n'a même pas le bon sens de se marier et qui veut aller dire aux autres qui est un saint. C'est incroyable. Incroyable. Essayons de voir maintenant comment fonctionne cette mise en candidature-là. Peut-être que nous pouvons commencer par la définition exacte de ce qu'est un saint. Alors, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il n'y a qu'un seul mot dans le Nouveau Testament, et c'est agios, H-A-G-I-O-S en grec. Donc, cela signifie sacré, pur, sans reproche, consacré, hautement sacré, un saint. Sacré, pur, sans reproche, consacré, hautement sacré, un saint. Ça a l'air d'un appel qui est très élevé, n'est-ce pas? Alors, dans l'Ancien Testament, il n'y a que deux termes qui, en hébreu, alors qu'il n'y en a rien qu'un en grec dans le Nouveau Testament. Alors, il n'y en a que deux qui sont traduits par saint. Alors, le premier, c'est Gadosh. Gadosh, il veut dire sacré en tant que tel ou lors de cérémonies. Ça peut aussi vouloir dire un ange de temps à autre. Et ça veut dire un saint consacré. Et l'autre mot, c'est kossid. Kossid. Alors, je n'épellerai pas ces mots-là. Si vous voulez les regarder, vous pouvez toujours le faire. Alors, la signification, c'est une personne pieuse, sanctifiée, bonne, miséricordieuse, une sainte, un saint. Donc, ça vous donne une idée générale de ce que c'est en regardant la signification des trois mots qu'on retrouve dans la Bible. Donc, comment fonctionne cette description ou cette mise en candidature? Donc, quels sont les critères par lesquels Dieu va aller choisir ceux qui peuvent se qualifier pour être des saints? Alors, tournons maintenant à Matthieu 13 pour cela. Alors, c'est quelque chose qui devient de plus en plus intéressant ici. J'ai déjà embauché des gens auparavant, et il y en a parmi vous qui en avaient embauché aussi, et j'en ai aussi congédié. Je sais donc ce que c'est qu'un candidat, et je sais qu'il y en a qui n'iront pas plus loin que le moment de la mise en candidature. Par contre, il y en aura d'autres qui vont être embauchés, et puis il y en a même qui peuvent être embauchés, puis ensuite congédiés. Donc, ce sont toutes des choses que vous avez sans doute vécues, et c'est quelque chose qui n'est pas difficile, que vous pouvez comprendre. Donc, en gros, ce n'est pas quelque chose de différent. Alors, regardons ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. Alors, Matthieu 13, nous avons déjà dit qu'il y en avait beaucoup d'appelés, mais peu sont élus, peu sont choisis. Alors, on peut faire l'analogie qu'il y en a eu 750 000 ce mois-ci qui ont été appelés. Bien sûr, si vous annualisez ce chiffre, cela revient à 8,835 millions de personnes, 8 835 000. Alors, c'est le nombre de personnes qui viendraient au site Internet si nous demeurions au même niveau dans un an. C'est donc beaucoup de monde qui sont appelés ici. Et on est capable d'avoir la vue globale. On voit les gens qui viennent sur notre site Internet. On voit où ils vont, jusqu'à quel point. Alors, la personne moyenne prend un petit peu plus qu'un item et demi avec elle. Et ça veut dire que ça peut être n'importe quoi, là. Absolument n'importe quoi, n'importe quel item. Peut-être que vous diriez, il y en a qui n'ont pas vraiment eu l'appel, ils se sont retrouvés là, ils ne comprenaient pas vraiment, ils ne savaient pas ce qui se passait, ils n'ont pas appris grand-chose. Oui, d'accord, c'est possible, c'est une chose qui peut arriver. Mais il n'en reste pas moins qu'un grand nombre sont appelés. Et avant que tout soit fini, je suis certain qu'il va y avoir des millions, des dizaines de millions, et peut-être même des centaines de millions. Je suis même persuadé que ça va être des centaines de millions qui vont savoir exactement qui nous sommes. Et je dis cela parce que je sais qu'est-ce que la prophétie dit à propos de la réaction de ces gens-là à travers le monde entier. Alors, 13, verset 1, « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. » Alors, il n'y avait pas de haut-parleur dans ce temps-là. Moi, j'ai ici un microphone qui me permet de le faire. Alors, on peut se demander quel genre de voix que ces gens-là avaient. Bien entendu, le Christ était Dieu, mais c'était aussi un homme. Donc, il était assis sur le rivage avec les autres alentours. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. » Alors, il est en train de dire que les graines allaient à tous ces endroits-là. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil fut paru, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Il y a des personnes qui ne prouvent pas vraiment la vérité. Ils ne cherchent pas, ils ne vont pas creuser. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Alors, ce sont tous des parallèles dont chacun pourra faire l'objet d'un sermon. En réalité, je suis en train de travailler justement un sermon sur le verset 7 ici. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles, pour entendre, entende. Alors, je vous le demande, est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Essayons de comprendre. Alors, verset 18. Alors, il passe les quelques versets suivants à expliquer pourquoi il parle en parabole. Et ensuite, on arrive au verset 18. Il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Donc, il l'avait donné, maintenant, il va en donner l'explication. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, nous commençons à comprendre maintenant pourquoi il y en a plusieurs qui sont appelés et qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'avancent. Pourquoi il y en a peu qui sont choisis? Ils réussissent, ils reçoivent la sommation, ils apparaissent en cours. On parle en analogie ici, là. J'ai quelque chose d'important à dire. Alors, la sommation est souvent attachée à quelque chose d'important. Et vous avez ici un exemple qui peut dire pourquoi certains ne sont jamais choisis et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Bon. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Au moment où l'Église universelle de Dieu s'est écrasée, il y avait à ce moment-là 160 000 personnes ensemble en même temps qui recevaient la parole avec joie. Ça avait changé leur vie. Ils donnaient 10 % de leurs revenus. Ils bâtissaient leurs vacances. Ils les préparaient à l'entour de la fête des tabernacles. Ils ont changé leur semaine. Ils ont commencé à prendre une journée de congé à chaque semaine pendant laquelle ils ne travaillaient pas. Alors, on ne peut pas dire que les gens faisaient ça tout simplement parce qu'ils étaient déprimés. Au contraire, ils étaient très enthousiastes. Ils avaient appris quelque chose au sujet d'un appel incroyable. Il la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Lorsque les choses commencent à être difficiles, une minute, là, hein, il commence à faire chaud dans la cuisine ici, là. Moi, je suis intéressé par le côté salut de ça, là. Ça, il fait trop chaud ici. Moi, je m'en vais. Je quitte. Il faut que je trouve de l'air climatisé à quelque part. Il y a beaucoup de monde qui veut rester à New York. Mais lorsque, mercredi passé, il faisait 33 Celsius à minuit du soir, il y a beaucoup de monde qui voulait se trouver ailleurs. Il y a une vague de chaleur extrêmement importante et sérieuse qui traverse sur ce pays. Mais ça ne fait pas partie du sermon pour l'instant. Et puis c'est assez étonnant de voir combien il y a du monde qui nous ont écrit pour dire que Dieu est en train de punir les États-Unis et la Grande-Bretagne pour avoir aidé Israël. Je commence à comprendre comment cela va se passer, comment le monde va haïr Israël. Mais il voit ces tempêtes, ces ouragans, ces feux, les inondations. Il y a eu des inondations terribles ici au nord à Painesville. Il y a des feux partout. Il y a des milliers de feux qui sont en train de brûler là, présentement aux États-Unis. Est-ce que vous saviez cela? Au moment où je vous parle, c'est absolument incroyable. Alors que vous avez d'autres endroits dans le pays qui sont absolument détrempés. Je n'ai jamais vu les arbres croître autant que ça et demeurer si vert. Ma promenade à travers toutes les collines verdoyantes ici hier était vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, il y a des difficultés, des problèmes, et il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Frères et sœurs, nous entendons parler de gens à tous les jours qui nous disent « Où est l'Église? » ou « Comment est-ce que je peux me rendre à l'Église? » ou encore « Votre site Internet est merveilleux, j'apprends des choses que je n'ai jamais apprises auparavant. Jamais plus je vais observer Noël. » Puis, on n'entend plus parler d'eux autres jamais. On peut parfois commencer un dialogue avec eux. Alors, ces gens-là feraient partie de la catégorie dont nous entendons parler, mais qui n'osent pas s'avancer. Ils sont enthousiastes. Et ça se situe à un niveau un peu plus élevé que des millions dont on n'entend jamais parler, pour l'instant. Mais ils veulent continuer. Puis là, on leur dit, bien, l'église la plus proche se trouve à peu près à 150 kilomètres. Puis là, il dit, oh, ben, non, je pense pas que je pourrais y aller, là, tu sais. C'est trop loin. Alors, on entend de toutes sortes. On entend tout. Mon auto n'est pas bonne. Ou encore, je ne veux pas être seul. On a une personne qui nous a écrit, là, justement, aujourd'hui. Alors, nous avons reçu la lettre. Elle dit, je veux venir avec vous autres. Mais si vous n'êtes pas dans le voisinage, pas loin ici, je pense que je vais tout simplement aller avec cet autre groupe-là. Bien entendu, nous allons recommuniquer avec cette personne-là. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Bon, alors passons à travers chacune de ces catégories-là maintenant, en ayant en tête la description de tâches. Donc, en ce qui concerne d'abord les endroits pierreux, alors, ils ne saisissent pas. Ils ne comprennent pas le sens du travail qu'il y a à faire. Avant même que ça puisse avoir le moindrement de profondeur en eux-mêmes, ça leur est enlevé. Il y a un paquet de monde qui deviennent extraordinairement enthousiastes à propos de cette œuvre-là. Puis, ils vont voir leur famille pour leur en parler. Puis là, leur famille leur dit, c'est de la folie. Armstrong était fou. Dave Pack est fou. Ou va voir n'importe quelle autre église. Parce que ça, c'est une vraie doctrine de démon. Alors, il y a à l'extérieur au-dessus de 2 milliards de personnes présentement, frères et sœurs. Ainsi que dans les splinters. De plus en plus, d'ailleurs, que vous allez pouvoir vous en apercevoir, qui sont vraiment différents de ce que nous sommes. Ils sont radicalement différents de nous et de tout ce qu'a enseigné M. Armstrong. Alors, quand les gens se retournent, ils vont voir ma tante Jeanne, elle commençait à lui parler et à lui dire comment est-ce qu'ils sont excités. Il y a bien des chances que ma tante Jeanne, à un moment donné, ne soit pas elle aussi enthousiasmée, puis elle peut les secouer. Donc, à ce moment-là, ils paniquent, ils se retirent. Parce que si, à ce moment-là, ils réalisent, mais plus de Noël, ça veut dire que j'ai plus de famille, là. Ou encore, ma femme me dit, si tu ne fais pas l'arbre de Noël, moi, je ne suis plus là. Wow! Ça change les affaires, ça. Ces gens-là ne comprennent pas. Ils n'ont même pas la perspicacité pour comprendre ce travail-là. Ils n'ont pas les aptitudes. C'est quelque chose qui leur est retiré trop rapidement. Vers la fin de 1973, j'avais passé ce qu'on appelait un test d'aptitude. Je crois que c'était un des meilleurs qui existent, là. Alors, je sais qu'il en existe d'autres, là. Mais lorsque vous êtes un assistant ministériel, vous aviez à prendre, à passer un test. Je sais que c'est une chose un peu bête à faire, là, mais parce que ça n'existe pas dans la Bible. Mais de toute façon, c'est ce qu'il faisait à ce moment-là. C'était le début des années libérales. Et c'était juste avant la rébellion qui a commencé en 1974. En fait, ils avaient payé 500 $ à ce moment-là pour que moi, je puisse passer ce test-là. Et on parle de Johnson O'Connor ici. Et la plupart des gens ne réalisent pas qu'il y a moyen de mesurer des traits de caractère qui sont génétiques, c'est-à-dire des qualités ou des traits de caractère avec lesquels soit que vous êtes né ou avec lesquels vous n'êtes pas né. La même chose que certains caractères physiques. Je peux avoir les oreilles de mon père, c'est ce que j'ai. Ou encore les yeux de ma mère, c'est aussi ce que j'ai. Je peux aussi avoir certaines capacités mentales que mes parents avaient, et il existe un test pour les découvrir. Donc, j'ai fait ce test-là. J'en ai déjà parlé, là, mais je vais le répéter. Donc, à ce moment-là, le quartier général voulait savoir si les personnes qui étaient des assistants ministériels, dans ce cas-là, c'était moi, avaient les aptitudes nécessaires pour devenir ministre. Alors, après le test, ils vous rencontrent et ils vous disent les choses, les résultats que vous avez obtenus. Et il y avait 19 traits, 19 caractéristiques qu'ils peuvent mesurer de façon certaine. Alors, par exemple, un ingénieur civil avait besoin d'être capable de voir dans l'espace, en trois dimensions. Alors, c'est nécessaire s'il veut être capable de construire des ponts et des choses comme ça. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que je ne peux pas le faire. Je ne peux tout simplement pas le faire. Alors, ça veut dire, fais pas un ingénieur civil. Une autre caractéristique, c'est celui de la dactylographie. Alors, ils me l'ont dit doucement, là, mais dans le fond, ça veut dire que tu es un cancre. Alors, tu es aussi bien de prendre quelqu'un d'autre pour le faire pour toi. Et bien entendu, Dieu, dans sa sagesse, m'a donné une dactylographe. Puis, il y avait d'autres caractéristiques, là, au point de vue manuel. Et les résultats n'étaient pas tellement bons à ce niveau-là non plus. Bon, je me souviens de trois autres caractéristiques. Puis ensuite, ils ont commencé à me parler de mes forces, mes points forts, en fait. Et ensuite, moi, je leur ai demandé, j'ai dit, dans le fond, tout ce que c'est qui m'intéresse, je veux savoir, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être du ministère? Et ils m'ont dit, absolument. Alors, c'est quelque chose quand même intéressant, hein, d'avoir quelque chose qui provient du monde. Et par la suite, j'ai pu découvrir plus tard qu'un homme qui était à la veille de donner sa démission 6 semaines plus tard et qui était pour attaquer l'Église et qui était le directeur de la région de Chicago ne m'aimait pas. Et cet homme voulait que je prenne ce test-là, que je fasse ce test-là. C'est mon frère qui m'a dit ça un peu plus tard. Il voulait que je prenne ce test-là en espérant que je n'aurais pas de bons résultats. Quand je regarde en arrière, maintenant, je suis content, parce que je me dis, maintenant, je peux en parler même dans mes sermons, même 33 ans après. Donc, on peut dire aussi, en même temps, qu'il y a des gens qui n'ont pas les aptitudes pour être appelés à être saints. Le numéro 2, maintenant, on parle des endroits, avant c'était ceux le long du chemin, maintenant, dans les endroits pierreux. Alors, on parle de personnes qui ne sont pas capables de prendre la pression ici. Ils ne sont pas capables de faire face à la pression. Ils ne sont pas capables de faire face au stress de l'ouvrage. Vous pouvez poser la question à notre personnel sur le stress. Bon, ils aiment ça. En fait, je pense que chacun d'entre eux vous dirait qu'ils l'aiment. Et la plupart de ceux qui ont ici passé au moins une semaine vous direz, et vous pouvez leur demander, quand je ne suis pas là, qu'ils ne voudraient absolument pas aller travailler ailleurs. Pouvez-vous vous imaginer travailler à quelque part ailleurs qu'ici? Ils vont vous répondre non. Et je le crois. Je les regarde, comment est-ce qu'ils font. Il y en a plusieurs qui arrivent de bonne heure le matin et qui repartent tard le soir. Vous êtes presque obligés de tirer du fusil pour être capable de les faire partir du bureau. En fait, on tire en l'air, hein? On ne tire pas sur eux autres. Mais de toute façon, il y a de la pression et nous sommes présentement face à une telle chose. Suite à tout ce qui s'est passé cette semaine, on peut considérer ça comme une épreuve. C'est difficile. Et il y a d'autres difficultés aussi. Et si vous n'avez pas de racines, alors lorsque le soleil se lève, vous êtes brûlé. Et si vous avez une sécheresse, et que vous venez de planter un arbre, c'est pas tellement bon. En fait, un arbre a besoin d'au moins 1 an, et parfois même jusqu'à 5 ans, avant d'être pouvoir résister aux sécheresses. C'est le temps dont il a besoin pour être capable de faire plonger suffisamment ses racines. Ensuite, le numéro 3, alors on a des gens, parmi les épines, qui ne sont pas capables de demeurer dans le bon chemin. Leur attention est attirée ailleurs. Ils ne sont simplement pas capables de persévérer. Ils peuvent être paresseux, ou sont étouffés par la belle vie qui les entoure, la facilité. Ils veulent avoir, vivre la bonne vie. C'est ce monde-ci qu'ils veulent. Ils ne veulent pas avoir le monde à venir. Ou peut-être tout simplement, ils sont en train de faire ce qu'on pourrait dire, travailler au noir. Si on peut prendre cette analogie-là, ils vivent un genre de vie à l'Église, puis on a trouvé, on a vu par le passé, des dizaines de milliers de personnes qui étaient venues à l'Église. Et on pensait qu'ils étaient des saints, mais en fait, ils travaillaient au noir. Ils étaient dans ce qu'on pourrait dire dans d'autres affaires. Ils avaient un deuxième travail après le leur. Ils étaient dans des choses qui étaient totalement non chrétiennes. Puis après ça, il y a eu tout simplement une épreuve gigantesque qui est arrivée. Et tout ce beau monde s'est retrouvé complètement détaché. Ils n'avaient pas de racines vraiment profondes non plus. Ils étaient dans un autre travail. Ils ne faisaient pas suffisamment de jeûne, d'études pour être capables de développer ces racines-là. Je regarde, par exemple, les femmes des ministres dans les autres splinters. Elles travaillent toutes aujourd'hui. Autrefois, tout ministre dont la femme travaillait était automatiquement congédié. Mon épouse avait un travail. Elle était la mère de 3 enfants et elle constituait 50 % de mon ministère. M. Armstrong avait toujours l'habitude de dire, « Votre épouse, elle est employée. Elle constitue 50 % de votre ministère. » Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde alentour, dans le monde, en fait, on n'y trouve que le chaos. Et la majorité des gens ne sont pas capables de persévérer. Ils sont entourés par les épines qui ne cessent de les piquer. Et ça les étouffe. Ils sont incapables de se retirer de toutes ces nombreuses choses que le monde a à leur donner aujourd'hui. Aller chez le nettoyeur, acheter de la nourriture, regarder toutes les émissions de télévision. Pas capable de vivre sans ça. Je ne serais pas capable de vivre si je ne sais pas ce qui va se passer dans le prochain épisode de la semaine prochaine. Alors que ce soit des romans savants ou d'autres choses. Vous savez, je ne suis même pas capable de nommer des programmes parce que j'en regarde jamais, moi. Je n'ai pas aucun qui me vient présent à l'esprit, là, pour le moment. Je n'ai jamais regardé American Idol, par exemple. Jamais. Monsieur Pat, faites-vous des farces, là? Ma réponse, au contraire, je suis extrêmement sérieux. Je peux peut-être vous donner une couple de noms, là, M. Taylor Hicks. La raison pour laquelle je suis peut-être capable de donner ce nom-là, c'est parce que son nom a apparu dans tous les journaux, puis il a rencontré le président cette semaine. C'est-tu bien son nom, ça, c'est Taylor Hicks? Ou est-ce que c'est, je ne sais pas, moi, Hickey Taylor? Je ne sais pas ce que c'est son nom. Non, je pense que c'était plutôt le premier, non pas le dernier, là. Puis enfin, bien entendu, le quatrième, c'est la bonne terre. Ceux qui en ont les capacités acceptent les pressions d'un haut poste exécutif et en tant qu'exécutif, ils sont capables de persévérer et de produire. Ils persévèrent et ils produisent. Et de façon littérale, certains donnent 100, d'autres 60, d'autres 30. Bon, mais Dieu utilise un processus spécial pour être capable de sélectionner les personnes qui restent pour le travail. Alors, nous allons nous rendre à 1 Thessaloniciens 1. Alors, quelques passages avant, au fur et à mesure que nous avançons vers la conclusion. 1 Thessaloniciens 1. Alors, c'est un processus spécial. Alors, au verset 4, si nous commençons au verset 3, il est écrit d'abord, « Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Verset 4, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » J'ai écrit un article, c'était lors des dernières élections présidentielles qui s'intitulait « Elections Winners All ». Et chacun d'entre nous sommes des vainqueurs d'élections, dans le fond. Alors, d'habitude, il y a des gagnants et des perdants, et c'est ce qui va arriver cet automne ici. C'est quelque chose de très important dans ce pays ici. Alors, un d'entre eux a dit, je vais quitter le Congrès. Si le démocrate, les démocrates ne prennent pas le contrôle, là, peut-être qu'ils parlent de revenir. De toute façon, si les démocrates gagnent, il va y avoir aussi beaucoup de perdants. Alors, il va y avoir aussi des choses du Sénat, il va y avoir des élections pour les gouverneurs. Ce n'est pas une élection présidentielle. Il va y avoir beaucoup de candidats locaux. Quant à vous, frères et sœurs, vous avez gagné une élection. Vous êtes des gagnants d'une élection. Peut-être n'avez-vous jamais réfléchi à cela sous cet angle. Et il y a eu sans doute un ou peut-être deux votes qui ont été donnés. Alors, permettez que j'explique. Nous sommes élus en tant que saints par le vote singulier du Père ou possiblement aussi celui de Christ. Jean 6, 44 dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, de façon initiale, ça dépend du Père. C'est la décision du Père. Bon, en fait, ça ne dit pas exactement, ça ne dit pas cela, là. Mais ça dit que on ne peut venir au Fils à moins que l'Esprit du Père l'appelle. Bon, ça peut aussi bien être le fait que ça pourrait être le Père et le Fils qui prennent une décision ensemble et ensuite l'Esprit du Père l'attire. Donc, c'est intéressant, on parle de l'Esprit du Père ici, parce qu'il y a aussi un Esprit du Fils. Alors, s'il y a un Esprit du Père et que, comme on dit supposément, il y a trois personnes en Dieu et qu'il y a un Esprit du Fils, alors il y a un problème qui apparaît là. Nous sommes rendus avec quatre personnes en un seul Dieu. Mais en fait, frères et sœurs, la vérité, c'est qu'ils sont tous deux faits du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit émane, sort de l'un et de l'autre, tout comme ce sera le cas pour nous. Bon, c'est un aparté ici, mais c'est intéressant. Donc, l'Esprit du Père les attire au Fils, vers le Fils. Mais bien entendu, l'Esprit n'est pas impliqué pour prendre la décision. Là, si vous permettez encore un petit aparté ici, en tant que membre de la famille divine, votre esprit va être là où vous allez être, mais l'esprit pourra sortir de vous et accomplir des choses. C'est le genre de choses qu'on peut apprendre de Jean 6, 44 et d'autres versets en plus. Donc, nous recevons un vote, probablement deux, mais je dis un. Et je dis « vote » parce que le mot « vote » vient du mot « voix » et c'est la voix de Dieu. En fait, ça vient en réalité du mot « volition », de la volonté de Dieu. Je suppose qu'ils ne mettent pas de vote et puis si jamais à un moment donné ça sortait un à un, le Père prendrait la décision, là. Peut-être qu'ils vont se parler l'un à l'autre, hein, question de conseil. Par le baptême, nous sommes consacrés dans la fonction. Alors, à ce moment-là, nous avons été choisis et élus. Élus au poste de saint. Donc, nous devons marcher en conséquence, marcher avec dignité, en être digne du poste. Alors, cette fonction-là paie de très forts dividendes. Et elle n'est pas toujours plaisante, pas toujours facile et pas toujours commode non plus. Alors, jetons-y un petit coup d'œil de plus près dans Marc 10. Marc 10. Alors, nous allons y trouver sans doute la meilleure description de tâche qui peut la résumer. Marc 10 et au verset 42. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Ils s'appellent Saddam, Assad, Ahmadinejad, Kim Jong-il et différents autres comme eux. » Alors, tout le monde le sait, il comprend, c'est la façon pour les païens d'agir ainsi. Ils s'appellent Chavez, ou Fidel, et maintenant Raoul Castro, ou encore Mugabe. Ils ont différents noms. Et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et en anglais, on dit « minister », qu'il administre, qu'il soit, qu'il vous serve. Alors, il y en a qui regardent ces passages-là et ils disent « il n'y a pas de raison d'avoir d'autorité. L'autorité n'existe pas. » Autrement dit, si vous avez de l'autorité, vous êtes comme un païen, comme un gentil. Non, ce n'est pas ce qu'il dit ici. Et ce qu'il dit, c'est que si vraiment vous voulez être grand, alors vous servez les autres. Verset 44, « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » C'est encore plus fort en français qu'en anglais. « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Donc, la description de tâche d'un saint, c'est que c'est un serviteur. C'est un serviteur. Et c'est un poste élevé, d'une grandeur extraordinaire. Vous avez été appelé à être saint, mais de façon ultime, vous avez été appelé à quoi? De toute évidence, le pape ne le sait pas. Et il semblerait aussi que tous les gens qui prennent leur distance en disant « je ne suis pas un saint », eux non plus ne le savent pas. Puis il y a ceux de qui vous pourriez peut-être dire qu'ils le savent, bien que je doute qu'ils le sachent. Ils ne veulent tout simplement pas servir. C'est un poste de service, de serviteur. Les responsabilités de ce poste, nous pouvons les trouver dans Matthieu 25. Nous l'avons regardé l'autre jour, nous l'avons lu. Alors, nous allons le voir maintenant dans un contexte un peu différent. Alors, Matthieu 25, au verset 34. Alors, le roi dira à ceux qui seront assis à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Alors, je n'ai pas vraiment le temps de répéter tout ce que nous avions dit et le contexte, mais vous savez que ça s'adresse à l'intérieur de l'Église. « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, soif, vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger, vous m'avez recueilli, nu, vous m'avez vêtu, malade, visité, en prison. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? » Verset 40, « Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » On voit ici que toutes ces choses sont des formes de service, des façons de servir. Et à toutes les fois que vous rendez service et que vous servez quelqu'un dans l'Église de Dieu, c'est Christ que vous servez. J'ai déjà couvert ça dans un contexte différent. Bon, alors maintenant, tournons à trois endroits dans Pierre avant de conclure. Nous allons commencer par 1 Pierre au verset 5. Pardon, 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5 et au verset 10. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Alors, c'est tout un verset, ça, ici. Nous allons le relire encore. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un peu de temps? Vous savez, on dit des fois, « Oui, je vais être là dans pas longtemps. » Bon, on veut dire souvent par là une demi-heure, une heure, des choses comme ça, mais ici, il ne faut pas oublier que nous parlons avec un ou d'un être qui inspire Pierre ici, et pour lequel un jour égale mille ans et mille ans égale un jour. Souffrir un peu de temps, peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans et même 40 ans. Je suis personnellement rendu dans ma 41e année dans l'Église. C'est quand même un bon bout de temps. Après avoir souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Alors, dans le fond, il est en train de parler de votre retraite ici, si vous voulez regarder ça un peu comme une analogie. Et vous ne recevrez pas à ce moment-là la moitié de votre salaire. Pareil comme les gens qui voient que vous avez travaillé toute votre vie. Et puis, là, vous arrivez au moment où vous avez le plus de connaissances, le plus d'expérience, le plus de formation. Vous avez le maximum de sagesse, puis bang, on vous arrive, on vous donne la moitié de votre salaire. Mais ça, c'est parce que les gens se retirent, puis normalement, ils ne devraient pas. Mais dans ce cas-ci, à la place, vous allez recevoir des bénéfices et des dividendes éternels. C'est absolument incroyable. En fait, vous augmentez, vous accédez au repos du royaume de Dieu. On appelle ça un repos, parce que c'est le royaume de Dieu. Mais c'est un temps où nous allons être extraordinairement occupés. Et c'est un endroit où nous ne nous retirerons jamais. Il n'y aura pas de retraite. Nous allons toujours être membres de la famille divine. Les gens dans le monde regardent toutes sortes de dépenses, là, de chiffres. Regardez dans USA Today, ici. Vous voyez ces lignes rouges, ici. Ils disent, quel est le véritable déficit américain? Quel est leur véritable déficit fédéral? Est-ce qu'il c'est le 318 milliards? Ça, c'est le déficit officiel. Est-ce le 760 milliards de dollars? C'est celui qui est établi par les comptables. Alors, ça représente à peu près 150%. Ou est-ce que c'est 3,5 trillions de dollars? À la méthode employée par les compagnies, parce qu'ils considèrent tout, tous les bénéfices marginaux, toutes les choses médicales, tout. Et si c'était ça, le déficit américain cette année serait de 3,5 trillions de dollars. Et bien entendu, personne n'en parle, parce que politiquement, ce n'est pas le genre de choses qu'on est capable, qui est très populaire, et aucun pays n'est capable de soutenir un tel rythme. Et tout cela parce que nous avons une nation qui n'est même pas capable de comprendre que lorsque nous prenons notre retraite, c'est pour prendre notre retraite dans la tombe, en sortant les pieds en premier. M. Armstrong ne s'est jamais retiré. En fait, sa retraite s'est été pieds premier vers la tombe à l'âge de presque 94 ans. J'espère, moi, que je ne vivrai pas jusqu'à ce niveau-là, mais si c'est le cas, alors ce sera les pieds devant. Et c'est ainsi que vous devriez penser aussi. Et quand cela arrive, alors vous grimpez. Vous n'avez pas votre pension. Nous n'avons pas d'ailleurs de fonds de pension. Les gens n'en auront pas besoin et ça n'arrivera pas. Si quelqu'un devient handicapé pour une raison ou pour une autre, nous allons prendre soin de lui, c'est sûr. Nous avons ce qu'il faut. Dieu a un plan pour ça et les sermons récents en ont parlé. 1 Pierre 2, maintenant, verset 9. 1 Pierre 2, 9, juste une couple de pages auparavant. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, pas seulement un sacerdoce. Les épiscopaliens ont un sacerdoce, les catholiques aussi. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà ce que nous sommes. C'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est incroyable. Regardez, lisez cette description de tâche. Nous sommes la crème, une nation choisie, un peuple acquis. Plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Vous êtes une race élue, unique. Nous avons des membres qui sont dans 25 ou 30 pays à travers le monde entier. Et nous avons des lecteurs dans tous les pays et territoires, virtuellement tous les territoires de la Terre, et certainement dans chaque nation, c'est une chose que nous savons maintenant. Une nation sainte. Rappelez-vous que les saints sont définis comme étant des gens qui sont sacrés, consacrés. 2 Pierre 1 maintenant, 2 Pierre 1. Une couple d'autres versets finaux maintenant. Alors, 2 Pierre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre appel et votre élection. Voulez-vous vraiment prendre à la légère, frères et sœurs, le fait que le Dieu de milliards de trillions d'étoiles a déposé un vote en votre faveur et que 99,99995% des gens en dehors n'ont pas été choisis. Voulez-vous vraiment prendre cela à la légère? Car en faisant cela, les choses des cinq versets précédents, vous ne broncherez jamais, tomberez jamais. On vous dit ici de travailler dur. La foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Et oui, la dernière ère est aveugle. Elle ne comprend absolument pas la description de tâches. Les épines, la chaleur et les oiseaux les ont atteints. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est une chose qui ne peut arriver qu'à quelqu'un qui a connu la vérité, ceci. Frères et sœurs, s'il n'y a jamais eu une génération qui peut comprendre que les gens peuvent devenir aveugles, et toute une ère ici est appelée aveugle, à quel point sont-ils aveugles? Ils se promènent sans vêtements. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe. Puis il vient après, appliquez-vous, d'autant plus à affirmer votre vocation. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et finalement, Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. On parle des dix rois ici. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles, ceux d'entre nous qui ont été appelés, embauchés, choisis, élus et qui ont travaillé avec fidélité dans notre profession, vont régner et être avec Christ à jamais dans son royaume. Juste à coup.